Mardi 17 mars 2020, à midi, la France s'est confinée. Les portes du théâtre Firmin Gémier-Lapiscine se sont fermées. Chacun chez soi, nous nous sommes retrouvés face à nos doutes, nos réflexions et nos espoirs. Nous avons proposé aux membres de l'équipe, aux artistes de la saison 20-21, aux spectateurs et aux partenaires, de partager avec nous leurs ressentis sur ce moment inédit que nous vivions. Nous avons reçu près de 70 contributions et les avons compilées en un recueil, les paroles de confinés. Dans cette série de 4 podcasts, nous vous proposons d'en découvrir quelques extraits choisis, lus par Marc Jeancourt et mis en musique par Nicolas Dossier. Épisode 1, introspection. Gaëlle Chabrol, clown et cuisinière à l'Espace Cirque d'Antony.
Il est 11h45. Je suis immobile, assise sur la terrasse de cette maison que j'aurais dû quitter la veille. Je ne suis pas chez moi. C'est juste pour quand je travaille ici, à Bourg-Saint-Andéol, au pôle cirque de la Cascade. Mais depuis hier, je n'ai officiellement plus de travail puisque tous les événements culturels sont annulés. J'ai décidé de rester là, parce que de toute façon, quand la Cascade réouvrira dans quelques semaines, je serai déjà sur place. Je me sens oppressé. Je regarde ma montre. Dans 10 minutes, officiellement commence ce que tout le monde appelle désormais le confinement. C'est un peu anxiogène. Un confinement, pour moi, ça rime avec étouffement et renoncement. Enfin, en gros, ça sonne mal. J'ai été marcher dans la nature ce matin, histoire de m'imprégner d'odeurs, de couleurs, d'air pur et du printemps qui ne saurait tarder. Ironie du jour, le ciel est d'un bleu profond et le soleil est radieux. J'ai même fait des photos, au cas où je ne pourrais plus ressortir, histoire de ne pas oublier. J'ai l'impression d'être un prisonnier quelques heures avant son incarcération, dernière minute de liberté. Et puis la cloche de l'église sonne les 12 coups. Midi. Mon cœur bat plus vite. Nous rentrons officiellement dans une ère que je n'avais jamais connue. Celle de la privation de liberté. Pour mon bien et pour celui des autres, si j'ai bien compris.
K.L.
Dans un premier temps, mais j'ai été choqué. Peut-être encore aujourd'hui, car même si je suis présent à ce que je fais au quotidien, je n'intègre toujours pas ce que nous traversons en ce moment. Franchement, mais c'est quand même irréel ce que nous vivons. J'ai vu ça qu'au cinéma, hein, personnellement. La vie continue, malgré tout, mais à la différence d'avant cette crise, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité mentale de me projeter. Je suis une personne qui planifie beaucoup, hein. J'aime me préparer aux événements. J'avais des projets personnels importants à mener et aujourd'hui, plus rien, tout est repoussé, alors je vis au jour le jour. Nous sommes en mai et je n'arrive pas à me projeter à cet été. Je n'ai même pas la force de le faire. C'est le brouillard. Heureusement, pour moi, mes responsabilités familiales et professionnelles me forcent à m'interroger et me réinterroger sur le futur. Et puis tout doucement, un très léger avenir s'imagine.
Eudes Labrusse. Auteur et co-metteur en scène. Spectacle La guerre de Troie en moins de 2.
Ce qui m'a le plus choqué, le péché originel du maintien des élections municipales. Pour la première fois de ma vie, ce dimanche-là, je ne me suis pas présenté au bureau de vote pour une élection. Non, que j'ai craint la contamination. A priori, c'était hygiénique. Mais tellement peu démocratique. Comment se lancer dans une élection dont la campagne a été quasi annihilée, dont il était évident que l'abstention serait énorme et que le second tour ne pourrait pas avoir lieu? On parle beaucoup dans les éditoriaux du juin 40 sanitaire, je continue à rester abasourdi par ce juin 40 démocratique.
Cécile Rusterholz, graphiste pour le théâtre.
Une de mes amies m'a dit qu'elle se sentait à la fois funambule et somnambule. Funambule parce qu'on a l'impression que tout ne tient qu'à un fil, et somnambule parce que C'est un peu comme si on était dans un demi-sommeil, mis en sommeil dans nos maisons. Que sera le réveil ?
Nicolas Lyotard, auteur et metteur en scène, spectacle Pangolarium.
D'abord, la question de la privation de liberté de mouvement et de ce que cela a pu engendrer en moi. J'ai bien noté les sages guillemets, mais cependant, pour être tout à fait franc, je te dirais que je ne me sens aucunement contraint, ni privé de mouvement. Je te prie de croire que s'il me venait l'envie subite de sortir faire un tour, aller voir des amis ou manger des moules sur l'île de Ré, je ne pense pas que qui que ce soit réussisse à m'en empêcher. En Chine, sans doute, ils tirent à balles réelles, mais nous sommes en France, je ne suis donc pas contraint. C'est simplement qu'en pleine conscience du danger que je cours et fais courir aux autres, je n'en ai aucune envie. Il n'y a pas la contrainte, je n'obéis qu'à la raison, et donc à moi-même. Tout cela en dépit du fait que sur l'île de Ré, tu l'auras noté, on mange plutôt des huîtres.
K.L.
Je pense aussi que les Français sont indisciplinés. Et ils ont sous-estimé très gravement cette crise sanitaire. Au début, c'est dommage, certaines vies auraient pu être épargnées, selon moi, si les consignes avaient été strictement appliquées. Encore, aujourd'hui, certains ne les respectent qu'à moitié, c'est irresponsable.
Yves Bonnen, metteur en scène, spectacle La Maison de Bernarda Alba.
On puisse ne pas célébrer des funérailles, ou qu'elles soient célébrées dans des conditions très restrictives, me semble épouvantable. Je comprends qu'on prenne des mesures protectrices, un masque, périmètre de sécurité, mais l'hommage rendu aux morts est au fondement de notre humanité. Hegel n'a pas tort de dire que tout le système de la vie éthique repose sur ce devoir-là. En effet, dans ce qu'il est convenu d'appeler le processus du deuil, on sait que l'étape de la séparation des corps des vivants d'avec les morts est primordiale dans l'intégration de la fin de vie, dans la psyché des endeuillés. Or désormais, et jusqu'à nouvel ordre, cette étape n'a plus d'existence anthropologique. Elle est sabotée, niée, abrogée. C'est un saut, oui, un saut dans l'inconnu qui risque de laisser de lourdes traces. Qui ne sait pas que la période des funérailles est essentielle à la reconstruction intime de ceux qui restent ? De la même manière, on ne peut pas laisser les personnes âgées ou vulnérables dans la solitude. Quelques jours, ça peut aller, mais 5, 10, 15 semaines, ça me semble impossible. Peut-être qu'il y a un risque, un danger, mais il faut l'assumer. Comment se remet-on de ne pas avoir assisté aux funérailles d'une personne aimée ? De ne pas avoir dit adieu à un proche ?
Marion Franquet, directrice du pôle public du théâtre.
La sensation diffuse et confuse d'être sur un bateau. La promiscuité jamais encore vécue sur un temps si long et en mode sédentaire, avec mes camarades de bord, ou celle plus virtuelle mais prégnante, avec mes camarades de galère. La galère qui lutte contre les éléments à la force des bras de ses galériens. D'appels en fil de discussion WhatsApp, de Zoom à Teams à Werribee. On cumule, on trouve, on se connecte les uns aux autres, et d'une certaine manière, on n'a jamais été aussi près. On n'a jamais autant parlé. Les échanges fusent et les réunions se multiplient. On se parle le samedi, le dimanche, le soir, les jours fériés. On est dans le même bateau, quoi. On fait face aux mêmes tempêtes. On s'entraide pour faire passer le mal de mer. Ou l'angoisse du calme plat d'une mer d'huile.
Aude Rosset, acrobate de la compagnie Équivoque.
Pour ma part, j'ai vécu ce confinement comme l'un des plus importants apprentissages qui m'ait été offert de vivre. Un maître du nom de Corona est venu me montrer avec intensité et générosité toutes mes zones d'ombre et de lumière. Comme un virus qui s'attaque à la zone la plus fragile. Il a fallu accepter ce virus, lui donner ce qu'il voulait, l'écouter, aller observer cet endroit malade et le guérir, doucement, avec tendresse. Puis, laisser le virus s'accrocher à une nouvelle ombre, encore et encore, et réécouter, observer, penser, comme si c'était la première fois, la première plaie. lui donner la même attention précieuse et unique, ne pas baisser les bras pour ne pas avoir à recommencer, lui donner les rênes, lui faire confiance, pour de vrai, et le remercier. C'est difficile de se laisser mourir, de laisser partir un morceau de soi, même le plus moche, même le plus bête animal, même celui qui nous étrangle depuis très longtemps, peut-être parce qu'il fait partie du Pulse, que sans lui, la fondation s'écroule, peut-être la peur de rebâtir, de ne pas avoir la force, la peur de reconstruire à l'identique éternellement, encore et encore, avec ces morceaux de soi qui nous empêchent. Empêchent de quoi ? La nature a l'air de savoir. Faisons-lui confiance. Oui, c'est dur. Et simple en même temps. Je crois avoir compris qu'il faut rassurer la peur et suivre le maître en nous-mêmes, qui sait tout. Tout ce qu'il faut faire. Qu'il n'y a pas de vérité unique, mais que des êtres uniques, chacun au rythme de son cœur, démêle ou non les morceaux du Pulse. Trouver un remède, alors il faudra autant de remèdes que d'êtres humains sur Terre. Bien sûr que c'est possible, et ça le sera. Il faut juste se donner le temps. Le temps pour soi-même et le temps pour l'univers. Car je crois intimement que chacun, en se guérissant de lui-même, guérit le monde et que le collectif mondial n'oublie personne.
Nikolaos, jongleur, clown et bien d'autres choses. Spectacle presque parfait.
Avant de s'endormir, ma fille me pose souvent des questions philosophiques. Par exemple, pourquoi sommes-nous en guerre, comme dit le président ? Et pourquoi les gens se ruent sur le PQ dans les supermarchés ? Je lui ai dit que je sais pas trop pourquoi nous sommes en guerre. Par contre, je sais que le PQ est inventé pour essuyer les trous du... Ma fille m'a répondu. Donc, là où il y a le besoin de beaucoup de PQ, il y aurait forcément beaucoup de trous du... Oui, oui. Forcément. Et puis, trop de trous du... Enfin, en temps de guerre, c'est... C'est mathématique. Allez, dors mon ange, dors.
Déborah Bourris, assistante à la communication au théâtre.
Ce qui était insupportable, c'est d'avoir honte. Honte d'être française. Honte de voir des réactions irrationnelles et égoïstes. Honte de voir des franciliens fuir en province en faisant fi des risques de contamination des autres, de leur propre famille. Honte d'un gouvernement qui pense à court terme, qui pense profit et économie, n'agissant que devant le fait accompli lorsqu'il est au pied du mur.
Louis Cormeret, régisseur à l'espace Cirque d'Antony.
Mon pire souvenir serait lorsque j'ai dû aller chercher quelques affaires à moi dans un village à 50 km d'où je suis. J'ai eu le sentiment d'être hors la loi, dans un pays où il fallait fuir les gendarmes et craindre la dénonciation. Je suis passé la peur au ventre par toutes les routes de campagne, espérant que l'uniforme ne serait pas au prochain croisement. Je dis la peur au ventre, hein, car comment être sûr qu'ils puissent comprendre la nécessité d'avoir un groupe électrogène, des outils de jardin, des graines et diverses autres choses pour un confinement dans un champ ? Au-delà de l'amende, c'était le sentiment d'être dans les conditions des passeurs de ma région en 1944. Bon, conscient que pour moi, le risque n'était que de 135 euros.
Victor de Oliveira, comédien et metteur en scène, spectacle Incendie.
Au moment où je vous écris, il m'est encore difficile de savoir exactement ce que ce moment particulier a véritablement engendré en moi. Ce qui est sûr, c'est que ce moment est propice à l'introspection, aux souvenirs, et même aux réminiscences les plus variées et bien souvent les plus inattendues. Le rapport à la privation de liberté est quelque chose que je connais depuis tout petit, étant né et ayant vécu mon enfance dans un pays en guerre. Néanmoins, les souvenirs qui me viennent le plus souvent, depuis que je suis confiné dans mon appartement parisien, ne sont pas vraiment liés à ces années de guerre, mais plutôt à mes premières années d'exil, sans que je puisse vous répondre s'il s'agit véritablement de mes meilleurs souvenirs de confinement, ou l'inverse. Nous avions été expulsés avec mes parents du Mozambique, en pleine guerre, et nous avions été accueillis au Portugal. Le gouvernement nous a placés, pendant les trois premières années, dans un ancien sanatorium militaire désaffecté, où nous vivions avec d'autres familles dans notre cas. Nous allions à l'école, et nous pouvions sortir de cet endroit, mais nous le faisions rarement. Pourquoi ? La peur. La peur de quoi ? La peur de l'inconnu, quel qu'il soit. Nous avions quitté le chaos, nous étions enfin en paix, ou plutôt dans un endroit en paix, à l'abri, et pourtant, la peur de l'inconnu était plus forte. La peur de l'extérieur. La peur. Alors, à part pour aller à l'école, nous restions dans ce grand sanatorium où nous jouions à nous construire des mondes imaginaires en lien avec le monde réel que nous avions quitté. Quitter un monde chaotique pour un monde plus serein n'est pas chose facile, aussi étonnant que ça puisse paraître. Surtout si on vous apprend depuis tout petit que nous sommes plus sûrs dans des endroits que nous connaissons. Dans un monde, vous érigez des barrières imaginaires pour vous protéger du chaos de l'extérieur, et dans l'autre, vous érigez des barrières imaginaires parce que l'ancien monde vous manque. Et vous restez confiné dans ce lieu en suspens où les frontières de votre esprit veulent vous protéger de je ne sais pas quel danger errant. Les limbes de l'exil peuvent durer longtemps. Et lorsqu'aujourd'hui, pendant mon heure de sortie quotidienne, j'essaye de me balader autour de mon quartier et je croise quelques migrants égarés dans ce no man's land parisien, je ne peux m'empêcher de penser à ce petit garçon qui marchait droit devant lui dans ce petit village du nord du Portugal, en faisant attention à ne croiser personne pour ne pas troubler les frontières de son monde imaginaire, créé à l'intérieur de cet horrible sanatorium. Pour la majorité des migrants que je croise, rien n'a véritablement changé depuis le début du confinement. Les rues sont quasi désertes, oui. La plupart des magasins sont fermés, oui, et alors ? Leur esprit est ailleurs. Et ce n'est pas le danger d'un virus qui va changer cela.